Ce matin, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, justement dans le psaume 73. C'est un passage que on a eu l'occasion de méditer pendant cette semaine en famille, avec la famille de Damaris. Psaume 73. Et vous le savez, hein, que bon, les psaumes, probablement plus que tout autre livre dans la Bible, eh bien nous aident à explorer les profondeurs de notre cœur, n'est-ce pas? On arrive très facilement à s'identifier au psalmiste, que ce soit David ou comme celui-ci, psaume 73 est un psaume d'Asaph, de nous identifier à leur expérience de vie spirituelle, de marche avec le Seigneur. Il nous aide aussi à comprendre les situations dans lesquelles on peut se trouver, hein, dans les moments de doute, de frustration. Et à chaque fois, surtout, il nous ramène à Dieu. Il refocalise notre attention sur Dieu et sur l'espérance qu'il nous accorde. Et je crois que ce n'est pas pour rien non plus que dans les recommandations, même plus que recommandations, puisque c'est un impératif que Paul avait donné hein, dans l'Épître aux Éphésiens, il donne ça aux chrétiens de ce commandement de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. C'est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire à chaque fois que nous réunissons, lorsque nous chantons. Oui, c'est pour la gloire de Dieu, mais il y a aussi ce double objectif, celui pour nous en tant que chrétiens d'être encouragés, d'être exhortés, d'être enseignés. Et donc, la première chose qu'il mentionne, ce sont les psaumes. Et les psaumes, effectivement, sont remplis d'enseignements au sujet de Dieu, mais surtout au sujet de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on parvient si facilement à s'identifier à cela. Et pour le psaume 73, tout cela est particulièrement vrai, n'est-ce pas? Nous avons ici un homme, Asaph, qui était un musicien, un compositeur, un homme que David, le roi David, avait assigné au temple pour diriger. Hein, les chants, la louange. Et on voit ici Asaph qui va exprimer une certaine frustration, qui va exprimer ses doutes également. On voit un homme qui ouvre son cœur, qui est honnête au sujet de sa foi. Honnête dans le fait que, eh bien, la foi de nombreuses personnes n'est pas une foi parfaite. Mais ici, donc, Asaph, malgré ses efforts pour servir, pour honorer Dieu, eh bien, il partage avec nous que sa vie, elle était marquée par des difficultés dans sa foi. Et dans ce psaume, donc, Asaph va raconter, eh bien, ce moment dans sa vie, eh bien, sa foi, eh bien, a vacillé, où les doutes, eh bien, se sont présentés, hein, dans son esprit, dans son cœur. Regardons un peu ce psaume 73, lisons-le ensemble. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je porte des envies aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et notez maintenant le doute qui s'empare d'Asaph. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et voilà bien, effectivement, la beauté des psaumes, n'est-ce pas? C'est que dans plusieurs des psaumes, on va voir, eh bien, ces moments de vie qui tracassent, qui embêtent ceux qui ont placé leur foi en Dieu. Et on les voit dans ces moments de doute, ces moments d'oppression, mais immanquablement, on en arrive toujours à quelqu'un qui est revivifié dans sa foi. Tout comme Asaph, aujourd'hui, nous pouvons passer par ces moments de doute. Lorsque l'on observe la société autour de nous, lorsqu'on regarde les actualités, on peut aisément parvenir à ce même état d'âme. Ce même état d'âme, d'ailleurs, que l'Ecclésiaste a aussi très bien exprimé, n'est-ce pas? Hein, où il dit souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des siècles et des siècles que la nature humaine reste la même. Hein, que on a cette apparence que tout est vanité et poursuite du vent. On voit bien que cette nature humaine, corrompue par le péché, reste la même. Hein, même malgré les progrès qu'on peut faire dans nos sociétés, les progrès sociaux, etc., les progrès médicaux, on a toujours cette conclusion que les méchants semblent toujours prospérer. Même malgré hein, les 11 500 et quelques lois qui peuvent exister dans un pays comme la France, on voit des personnes qui n'ont aucune crainte de l'autorité, aucun respect de la loi. Et avec cette impunité, ils sont renforcés dans leurs actes et donnent aux gens cette impression que, eh bien oui, le méchant prospère. Hein, ce dédain pour la justice, pour l'honnêteté, le mépris ou même l'indifférence pour son prochain, ce sont des choses que nous constatons aujourd'hui qui se répandent et qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et parfois, ce constat que Asaph fait affecte même les chrétiens. Et parfois, certains chrétiens se disent, ah, ça va si je prends quelques détours. Ça va parce que, regarde, eux, ils ne sont pas punis, ils ne sont pas repris pour cela. Donc, je me permets, je peux me permettre ceci, je peux me permettre de ne pas suivre cette loi-là. Comme on l'a vu, Asaph ici nous ouvre son cœur. Et il commence ce psaume par une affirmation de la vérité. Mais malgré cette connaissance de la vérité, il y a ce doute qui est venu quand même. Frères et sœurs, je vous encourage dès aujourd'hui à ne pas douter. Ne pas douter de la bonté de Dieu. Parce que cette affirmation que Asaph proclame au verset premier, c'est que oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. La bonté de Dieu ne change pas. Et donc n'abandonnons pas, mais persévérons, persévérons. Et ayons cette même conclusion que Asaph a eue à la fin de ce psaume. Et notons plusieurs choses par rapport à ce psaume et qui, je l'espère, vont nous aider dans ce sens-là. La première chose, c'est que la vérité ne change jamais. Okay? La vérité ne change jamais. La vérité, de par son essence, de par sa nature, elle ne peut être qu'absolue. Hein, à partir du moment où on va insérer ne serait-ce que 1% de mensonge dans une déclaration vraie, eh bien, cette déclaration n'est plus vraie. D'accord? La vérité est quelque chose d'absolu. Il n'y a pas de demi-vérité. Hein, il y a soit le mensonge, soit la vérité. Et la vérité, elle s'assit. C'est que Dieu est bon. Et ici, pour Asaph, il déclare que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et sachez que autant Dieu a été bon pour Israël, autant Dieu est bon pour tous ses enfants, pour tous les croyants. Dieu est bon. C'est une vérité absolue que nous retrouvons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dieu est bon. Parce que c'est sa nature. Vous le savez, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rappeler cela dans les prédications, c'est que Dieu est saint, absolument parfait, absolument pur. Hein, il est absolument la vérité, absolument immuable. Immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est-à-dire que dans sa nature, Dieu ne change pas qui il est. Il sera toujours saint, toujours juste, toujours amour, toujours gracieux. Ce sont tout ce qui font hein, ce que Dieu est. Toutes ces choses ne changent jamais. La Bible nous rappelle que Dieu n'est pas homme pour mentir. Elle nous enseigne que Dieu a en horreur le mensonge. C'est contre sa nature sainte le mensonge. Dieu n'est pas homme pour tromper. Dieu n'est pas homme pour ne pas tenir ses promesses non plus, ni ses engagements envers ceux qui ont placé leur foi en lui. Israël a été le bénéficiaire d'une alliance. Une alliance merveilleuse, une alliance qui était bonne, une alliance que trop souvent Israël n'a pas su tenir. Mais tout au long de cette alliance, Dieu a été constamment présent. Dieu a constamment manifesté sa grâce et son amour pour son peuple, même dans les moments où son peuple s'était détourné de lui. Si Dieu n'avait rien à faire d'Israël, il les aurait laissés continuer. Mais Dieu, constamment, a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, prêcher, proclamer la repentance. À plusieurs reprises, Dieu a dû intervenir pour châtier son peuple, pour les ramener dans la bonne direction. Et ça fait partie de la grâce de Dieu, mais aussi de sa justice, mais aussi de sa bonté. En Christ, nous sommes dans une nouvelle alliance. Une alliance que Dieu a établi et dont nous, croyants en Christ, sommes les bénéficiaires. Et c'est une alliance qui, les Écritures nous disent, qui est plus excellente que l'ancienne, meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle repose entièrement sur l'œuvre de Christ et non pas sur les œuvres, nos œuvres imparfaites ou nos œuvres incomplètes. Hein, l'Épître aux Hébreux nous parle de cela au chapitre 7, verset 22. Que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. C'est lui qui est le garant, c'est pas moi, c'est Christ, l'homme Dieu parfait. Plus loin au chapitre 8, verset 6, il dit, mais maintenant, hein, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et donc, ce que Asaph dit ici, au sujet que Dieu est bon pour Israël, nous aujourd'hui, nous pouvons affirmer la même chose que Dieu est bon pour ses enfants, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Dieu est bon pour eux. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ah. Et ça, c'est la grande question. Qui donc a un cœur pur? Par nature, par naissance, aucun de nous. On a beau parler hein, des enfants qui sont innocents. Ben, chaque être humain naît avec une nature pécheresse, chaque enfant naît avec cette nature qui va les pousser immanquablement, à un moment donné, à être violent, à se mettre en colère, à taper les autres enfants, à prendre les jouets des autres enfants. Et ça, c'est cette nature pécheresse qui très tôt se manifeste dans la vie humaine. Mais en Christ, ceux qui placent leur foi en Christ pour le salut de leur âme, pour le pardon de leurs péchés, et en lui seul, en son œuvre à lui, pas dans nos bonnes actions ou quoi que ce soit, mais simplement dans le fait que Christ a tout accompli sur la croix, et bien sur la base de cela, Dieu à ce moment-là nous déclare de nouvelles créatures. Hein, la Bible parle de cette nouvelle naissance hein, dans Jean chapitre 3. Mais ceux qui ont placé leur foi en Christ, et bien ils ont été fait de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu nous déclare à ce moment-là saints. Il nous déclare purs. Il nous déclare justes, non pas sur la base de nos œuvres, mais sur celle de Christ. Et c'est pour ça que cette nouvelle alliance, elle est plus excellente que l'ancienne. Et donc, de ce fait, nous ne devrions pas avoir de doute sur le fait que la bonté de Dieu est là. Parce que la bonté de Dieu s'est manifestée en Christ. Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la preuve de la bonté de Dieu, de son amour pour nous. Parce qu'il agit avec bonté, il a manifesté sa grâce en Christ. Nous sommes donc bien plus avantagés qu'Asaph à son époque. Nous pouvons, comme lui, proclamer que Dieu est bon pour ses enfants, pour ceux qui ont le cœur pur, et nous avons le cœur pur, non pas parce que je mérite et j'ai fait plein d'efforts pour purifier mon âme et purifier mon cœur, non. Tout a été accompli par Christ. Mais alors pourquoi nous arrive-t-il donc de raisonner comme Asaph, au point où, voilà, le doute va s'emparer de nous, et peut-être comme Asaph, on va douter de la bonté de Dieu, et ça va même jusque très loin, parce que il dit au verset 13, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Il remet en question même toute sa foi, il remet en question tout son salut, sur la base de ce qu'il peut observer autour de lui au quotidien. Il y a une chose étonnante ici, c'est que malgré cette vérité absolue, que la vérité ne change pas, ne change jamais, bien souvent comme Asaph, eh bien on va laisser ce que l'on constate, eh bien nous troubler. Nous ne nous attachons plus à la vérité, nous nous attachons à ce que nous voyons. Et là, c'est un combat, c'est une lutte pour de nombreux chrétiens, parce qu'effectivement, la foi n'est pas quelque chose d'aveugle, elle est fondée, elle est basée sur les Écritures, sur les témoignages d'hommes, de femmes qui ont vu Christ ressuscité, et nous n'avons pas de doute là-dessus. Mais parfois, c'est difficile de croire sans avoir vu, n'est-ce pas? C'était le cas pour Thomas. Je crois que c'est le cas pour de nombreuses personnes aujourd'hui, et même parmi les chrétiens. Parfois, on attend de voir quelque chose se produire, on attend de voir de nos propres yeux. Et quand on constate ce que l'on voit, qu'effectivement, il y a cette prospérité qui abonde chez les injustes, chez les méchants, eh bien, on peut arriver à ce moment de doute. Et même arriver à ce moment, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pour Asaph, il savait cette vérité au sujet de Dieu. Il savait que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais parce qu'il constatait autour de lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui ne collait pas. Et il était confus. Et cette confusion a semé le doute dans son cœur au sujet de la bonté de Dieu, de sa justice et même de son salut. Parce que comme il le dit, à un moment donné, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, verset 3, car je portais envie aux insensés. Il y a quelque chose de terrible dans cette phrase-là, parce qu'il reconnaît bien que ce sont des insensés, des personnes qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas pris le temps de considérer vraiment les choses, qui vivent sans Dieu, qui vivent pour eux-mêmes. Et il en est arrivé à les envier. Et je crois que malheureusement et tristement, beaucoup de chrétiens ont ces moments dans leur vie où ils envient peut-être. Ils envient peut-être, eh bien, les pécheurs, la vie qu'ils ont. Parce que c'est vrai que le péché, eh bien, a cette apparence de facilité. Le péché a cette apparence de, eh bien, les gens, ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils vivent bien et ils sont heureux. C'est ce que Asaph constatait. Ils voyaient que bah, les méchants, ils prospéraient, que les méchants, ils étaient pleins de richesses, qu'ils étaient dans le bonheur, etc. Et il en est venu à envier les pécheurs, envier les insensés. Deuxième chose que nous devons relever, c'est que la raison pour laquelle cela est arrivé à Asaph, comme ça est arrivé à beaucoup, même moi, hein, je le confesse, c'est que notre perspective, notre analyse de ce monde autour de nous a été corrompue par le mensonge. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on va s'éloigner de la vérité, eh bien, notre vision va être flouée. Notre analyse des choses, elle va être biaisée, elle va être corrompue. À partir du moment où on va s'éloigner de la vérité, qu'est-ce qui va rester? Le mensonge, l'illusion. Alors, comment est-ce que Asaph s'est éloigné de Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça de lui? Ben, regardez le constat qu'il fait. Hein, le méchant prospère. Hein, Asaph lui-même était gêné de voir ces méchants, ces pécheurs prospérer, tandis que ben, les enfants de Dieu, beaucoup, vivaient dans la pauvreté. Le fait que le méchant est impuni, que la justice est absente. Hein, même chose que on voit dans d'autres psaumes ou même dans Ecclésiaste. Hein, des méchants qui vivent dans le plaisir. Hein, il était stupéfait que les méchants puissent vivre une vie de péché sans problème. Beaucoup de gens autour de nous sont dans le péché et ont une vie qui, aux yeux du monde, est une vie réussie. Que ce soit par la richesse, la popularité, hein, tout ce après quoi le monde court. Le méchant va même jusqu'à, comme Asaph le souligne, se parer de leur propre péché. Ils en sont fiers. Ils se pavanent dans leur péché. Et c'est ce que nous constatons encore de plus en plus aujourd'hui dans nos sociétés, n'est-ce pas? Hein, quand il parle dans les versets 6, hein, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Hein, il est en train de montrer que c'est des personnes qui n'ont même pas honte de leur péché. Et aujourd'hui, oui, c'est ce que nous constatons dans notre société. Nous constatons des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas honte de leur péché. Ils en sont fiers. Ils proclament leur péché. Et oui, on regarde et on voit cela. Et comme Asaph, on pourrait être non seulement confus, frustré, mais commencer à douter de la bonté de Dieu pour ceux qui s'efforcent de vivre dans l'honnêteté, pour ceux qui s'efforcent de vivre dans la sainteté, et de voir que bien souvent, il y a les épreuves, les difficultés de la vie qui environnent, qui enveloppent les enfants de Dieu. L'apparente impunité et prospérité du méchant dont il est question ici dans ce psaume, oui, a produit le doute dans le cœur d'Asaph. Mais nous devons nous rappeler par rapport à la vérité que tout cela n'est qu'une illusion. Et c'est cette illusion qui a semé le doute dans son cœur. Quand Asaph, il a constaté ces choses, il a eu cette envie, oui, d'abandonner Dieu. Il avait peut-être l'impression d'avoir perdu son temps avec le Seigneur. Perdu son temps à s'efforcer de vivre dans la justice, dans la droiture. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons pu peut-être ressentir cela. Parfois, lorsque les difficultés et les épreuves viennent, on se dit, mais pourquoi? C'est tellement plus simple d'ignorer Dieu, tellement plus simple de faire comme les autres et ne pas subir ces choses-là, hein, on peut penser qu'il aurait été préférable de vivre comme le reste du monde, hein, qu'il n'y a aucun avantage à servir le Seigneur. Mais il y a un grand problème dans cette analyse et dans cette façon de raisonner. Le problème, c'est que la vie ici est envisagée et regardée d'une perspective humaine, d'une perspective temporelle. Lorsque nous regardons à la vie et ses problèmes d'un point de vue humain, effectivement, on va se focaliser sur qui? Sur l'humain. On va se focaliser sur nous-mêmes. Tout va se résumer à ben, quel impact est-ce que ceci va avoir sur moi? Quel problème vais-je rencontrer maintenant? Quand est-ce que je vais enfin trouver du repos? Hein, quand est-ce que je vais pouvoir vivre tranquillement? Et cette pensée naturelle, immanquablement, mène vers quelque chose de désastreux. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse à nous positionner au mauvais endroit vis-à-vis de Dieu. Et avoir les choses sous un mauvais angle. J'ai déjà utilisé cette illustration-là. Hein, imaginez que vous étiez dans un musée, que vous admirez un tableau, et dans les grands musées comme le Louvre, il y a des tableaux immenses, hein, sur plusieurs mètres. Et on peut regarder effectivement hein, certains détails qui sont là, et c'est extraordinaire les détails que ces maîtres d'art ont pu mettre sur leur toile. Mais si on reste focalisé juste sur ça, sur ces détails-là, on ne va plus voir l'ensemble du tableau. On va ne plus voir exactement ce dont il est réellement question dans ce tableau. Et notre vie ici-bas, c'est la même chose. Lorsque nous regardons d'une perspective humaine et temporelle de ce qui se passe ici-bas, oui, il y a de quoi être découragé, oui, il y a de quoi être envieux, oui, il y a de quoi vouloir abandonner. Mais dès que l'on va prendre du recul et commencer à regarder les choses sous un autre angle, c'est là où on va constater l'erreur qu'on était en train de suivre. Nous ne regardons plus au monde à travers les lunettes, si vous voulez, de la sainte parole de Dieu. Nous les regardons avec des yeux aveuglés par la nature pécheresse, par le vieil homme. Asaph connaissait la vérité au sujet de Dieu. Dieu est bon. Dieu est juste. Mais le fait qu'il était focalisé sur ce qu'il regardait d'une perspective humaine, eh bien, semblait contredire cette vérité au sujet de Dieu. Et c'est ce qui l'a plongé dans cette confusion, dans ce doute à l'égard de Dieu. Dès qu'il a commencé à regarder, hein. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Quand le doute au sujet de la bonté de Dieu pour nous va nous frapper, soyez assurés que c'est le signe que nous devons corriger notre manière de regarder à ce monde, notre manière d'analyser notre situation. L'analyse d'Asaph a été faussée par cette illusion hein, que le pécheur ne peut pas bénéficier de la bonté de Dieu, que tout doit réussir pour le croyant. Beaucoup de chrétiens pensent ainsi, que parce que l'on est chrétien, tout doit être parfait, tout doit être rose, tout doit être bien aplani pour nous, qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas d'épreuves dans la vie du chrétien. Et que, de même, bah, Dieu ne peut pas être gracieux ou bon envers ceux qui pratiquent l'injustice, qui vivent dans le péché. Quelque part, c'est ce que Asaph dit dans sa première déclaration. Oui, Dieu est bon pour Israël, c'est vrai. Mais Dieu a été aussi bon pour toutes les autres nations. C'est sûr. Il a béni, grandement béni Israël, de par l'alliance qu'il a faite avec Israël, de par l'obéissance d'Israël. Mais Dieu est bon et même gracieux envers chaque être humain. Repensez à ce que le Seigneur nous dit hein, dans Matthieu chapitre 5, versets 44-45, où il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si Dieu nous demande à nous de bénir ceux qui sont méchants envers nous, Dieu n'est-il pas en train de lui-même d'être bon et gracieux envers même les méchants? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si Dieu nous demande de faire cela, pourquoi est-ce qu'on penserait que Dieu ne le fait pas pour ceux qui le haïssent lui? Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce que l'on néglige trop souvent de voir, c'est que oui, nous avons un Dieu de grâce. Et cette grâce, ce n'est pas parce que, voilà, maintenant nous sommes ses enfants, que nous méritons toute cette grâce. Une grâce, par nature, c'est immérité. C'est un don. Mais Dieu est gracieux même envers les pécheurs. Pensez-y, Dieu est gracieux même dans le fait d'avoir créé l'être humain tout en sachant que l'être humain allait se rebeller. Dieu manifeste sa grâce par sa patience chaque jour en n'appliquant pas eh bien, toute l'ardeur de sa sainte justice envers le pécheur. Dieu est patient, Dieu est gracieux, Dieu aime. Le fait de penser que parce qu'on est chrétien, il n'y aura pas de difficultés dans notre vie, eh bien, c'est totalement ignorer même les paroles du Seigneur Jésus lui-même qui nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il y aura des difficultés pour le chrétien. Il faut s'attendre à cela. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés parce que l'on est chrétien. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des épreuves, des difficultés. Mais notez bien la promesse de Christ. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et voilà toute la beauté, la grandeur de la foi en Christ. C'est que Christ a réellement tout accompli. C'est lui qui est vainqueur et qui nous fait bénéficier de ses victoires chaque jour. Les tribulations ont touché même les disciples et les apôtres de Christ, hein, dans Actes chapitre 14, hein, lorsque Paul et les apôtres avaient évangélisé hein, Lystre, Icône, Antioche. Hein, ils étaient là pour fortifier les disciples, verset 22, les exhortant à persévérer dans la foi. Alors l'idée de persévérer, c'est de continuer malgré tout. Malgré quoi? Ben, il dit ensuite, persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une réalité. La réalité, c'est que la vie chrétienne, oui, nous avons le salut éternel en Christ. Oui, nous avons la victoire en Christ. Mais comme le monde a haï Christ, le monde va haïr ses disciples. Comme Christ a souffert, nous allons souffrir. Et les références à la souffrance du chrétien sont nombreuses. Les paroles de Paul à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça fait partie du lot. Et on peut se penser, mais alors, à quoi ça sert vraiment de devenir chrétien si on sait qu'il y aura quand même, peut-être même plus de souffrances et de difficultés, d'épreuves parce que l'on est chrétien? C'est parce que nous regardons d'une perspective humaine. Parce que nous sommes à regarder, ben, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Au lieu de vraiment constater et regarder à quelle était notre situation en tant que pécheurs, est-ce que Christ nous a accordé. Chaque jour qui passe est un jour de grâce. Le problème, c'est effectivement que depuis de nombreuses années, beaucoup de prédicateurs ont prêché un faux message. Un faux message de l'évangile. Un évangile hein, qu'on peut appeler de prospérité financière ou même de santé. Ces prédicateurs ont laissé croire à de nombreux gens que s'ils menaient une vie juste et qu'ils font ce qui est juste, alors le Seigneur est obligé de les bénir et de leur donner de bonnes choses. Dieu n'a aucune obligation envers nous. Dieu agit selon sa sainte nature, mais il n'a aucune obligation envers nous. Dieu tient ses promesses. Parce qu'il est saint, parce qu'il est vrai. Frères et sœurs, ce genre d'enseignement n'est rien que du mensonge. Ce que nous montrent les Écritures, effectivement, c'est que souvent, le Seigneur va permettre des choses difficiles à supporter dans nos vies. Et ce sont ces épreuves et ces difficultés qui peuvent peut-être amener à voir les choses d'une perspective humaine comme Asaph, ou bien les regarder différemment, et voir ce que Dieu va accomplir dans nos vies à travers ces difficultés et ces épreuves. C'est dans ces moments-là que on va pouvoir constater, ben déjà, la fermeté de notre foi, mais aussi l'ampleur de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais si on tombe dans ce piège comme Asaph, hein, de considérer la vie d'un point de vue humain, eh bien, on va douter. On va douter tout au sujet de Dieu, de ses promesses envers nous, et finalement même de son salut pour nous. Et ça, c'est une situation dangereuse. Parce que là, effectivement, en nous éloignant de Dieu, nous allons nous éloigner de bénédiction, nous allons devenir inutiles dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Lorsque ce germe du doute s'est emparé du cœur d'Asaph, à partir du moment où son regard s'est focalisé sur l'apparente prospérité et richesse hein, des méchants, il a cru une illusion, il a cru un mensonge. Hein, son analyse de la situation, elle était biaisée, n'est-ce pas? On comprend bien que lorsque il dit au verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Vraiment? Vraiment? C'est-à-dire que tous les méchants, tout va toujours bien dans leur vie. Qu'aucun méchant n'a des problèmes de santé. Hein, leur corps est chargé d'embonpoint. C'est-à-dire tout leur réussit, sont en bonne santé, etc. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ah, si. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Tout ça, c'est exagéré. C'est son ressenti. Parce qu'il a une analyse biaisée de la situation, parce qu'il s'est éloigné de la vérité, il voit la situation autour de lui et il exagère les choses au sujet des méchants. Ainsi sont tous les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Ah oui, très bien, ils peuvent, c'est vrai, peut-être accroître leur richesse par leur méfaits, leur vie d'illégalité, mais vous savez quoi? Nous n'avons pas à envier même cette richesse-là, ni même ce genre de bonheur. Est-ce que c'est vraiment là le vrai bonheur? Oui, c'est vrai que certains méchants prospèrent financièrement, mais pas tous. Beaucoup, hein, vivent dans cette apparente bonheur, prospérité. Mais ce ne sont pas tous les méchants qui prospèrent. Sinon, nos prisons seraient vides. N'est-ce pas? Tous les méchants sont-ils exempts de souffrance? Non. Les épreuves de la vie, les difficultés, la maladie, la mort affectent tout le monde, même les méchants. Ça, c'est quelque chose qui est évident dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Problème d'Asaph, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous interprétons mal la bonté de Dieu. Nous pensons que la bonté de Dieu, c'est que à tout moment, tout doit bien être réussi dans notre vie. Tout doit être selon ce que nous, on désire. On pense souvent que la bonté, c'est automatiquement des bénédictions qui vont être visibles, des bénédictions matérielles ou physiques. Alors que les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, hein, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. L'emphase est sur le spirituel, pas sur le matériel, pas sur le physique, mais le spirituel. Pensez à Job. Est-ce que vous pensez à un seul instant que ce que Job a enduré, c'était quelque chose de plaisant, d'agréable? En aucun cas. Et pourtant, au final, cette épreuve, ces épreuves, des épreuves extrêmement douloureuses, au final, l'ont amené à se rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur a béni à ce moment-là. Mais pensez-y, est-ce que tous les méchants prospèrent? Vous pensez que Pharaon a continué dans la prospérité? Est-ce que vous pensez, hein, que Nebuchadnezzar a tout le temps prospéré? Qui n'a pas été puni. Hein, rappelez-vous qu'à un moment donné, il est tombé dans la folie et se comportait comme un animal. Celui qui a suivi, hein, Belshazzar, hein, à peine la fête en son honneur, hein, qui a été donnée, hein, où il se me prenait vraiment comme une grande personne importante, cette même nuit, un autre homme va prendre sa place. Darius va s'emparer, hein, de Babylone et devenir empereur. Est-ce que le méchant prospère toujours? Hérode, lorsque la foule l'acclamait, parole d'un Dieu et non d'un homme, a-t-il prospéré longtemps? Parce qu'il a accepté d'être glorifié comme un Dieu et n'a pas donné gloire à Dieu, il est mort rongé des vers, nous disent les Écritures. Est-ce que le méchant prospère toujours? Non. Mais voilà bien l'illusion que le diable, le monde veut nous faire croire, c'est que voilà, le péché, bah, c'est facile, c'est agréable et tout réussit. Le sort final de tout homme sera toujours la mort, et après la mort, le jugement. Ne croyez donc pas que le méchant soit véritablement heureux, parce que ses richesses sont temporaires. Tandis que nous, nos richesses, il nous est dit de construire un trésor, non pas sur terre où la teigne et la rouille, hein, vont affecter ces richesses-là, mais de nous amasser des trésors au ciel. Et ça, ce sont des trésors spirituel. Pas physique, pas matériel, mais spirituel. Alors que faut-il faire? Bien, nous devons corriger notre perspective par la parole de la vérité. Revenir à la vérité. En pensant à ce thème de la réussite du méchant, ce verset de Marc 8, 36 que vous connaissez bien est revenu à l'esprit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ce qu'il y a de plus précieux pour chaque être humain, c'est notre âme. Et on peut amasser des richesses et amasser la gloire et la prospérité. Si notre âme est perdue, tout ça, ce n'est que vanité, poursuite du vent. Lorsque nous sommes troublés au point d'envier les pécheurs, il est évident que nous avons besoin de corriger notre manière de voir le monde autour de nous. Nous avons besoin de corriger notre relation avec le Seigneur. Et il y a eu ce déclic. Il y a eu ce déclic chez Asaph, hein, qui était lié à sa relation avec Dieu. Mais il y a aussi une chose qui le perturbait, c'était aussi sa relation avec et les autres, n'est-ce pas? Lorsque il nous dit, permettez-moi juste de retrouver le verset 15, si je disais je veux parler comme eux, comme les méchants, à suivre cette voie-là, je trahirais la race de tes enfants. Il y a une notion de loyauté ici. Loyauté envers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi la loyauté envers Dieu. Ainsi, Asaph refuse. Il refuse que ce soit par lui, eh bien, que une contamination hein, affecte le peuple de Dieu, qu'il n'y ait pas cette trahison. Il ne veut pas être un traître. Il veut être fidèle. Il veut être loyal. Et en écrivant ce psaume, on voit, oui, ses doutes. On voit son désespoir. Et il a ouvert son cœur à tous les autres. Et nos premières conclusions, même concernant nos problèmes, sont rarement les meilleures. C'est-à-dire que là, la conclusion, les premières conclusions d'Azaf, c'est à quoi ça sert de continuer, à quoi ça sert de m'être purifié, à quoi ça sert, les méchants, ils prospèrent, pourquoi est-ce que moi, je ne suivrai pas leur voie et prospérer moi aussi? Telle était sa conclusion. Mais il y a eu ce déclic. Un déclic qui lui a permis de reconsidérer les choses sous un autre angle. Et il y a une chose, une belle chose qui nous dit au sujet de cette situation-là, c'est que verset 16, il a réfléchi. Il a pris le temps de vraiment réfléchir. J'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer et la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est certain qu'il y aura beaucoup de choses, énormément de choses, concernant Dieu et la voie qu'il nous demande de suivre que l'on ne va pas comprendre, qui vont dépasser notre compréhension, notre intelligence. Mais verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire que oui, il y a cette difficulté, mais à partir du moment où il va se placer dans la présence de Dieu, c'est là où bien, sa perspective sur les choses de ce monde change. Qu'est-ce qui, donc dans la maison de Dieu, dans la vie d'Asaph, dans le temple, qu'est-ce qui l'a aidé à changer? C'était le fait de se rapprocher de Dieu, d'entrer dans ses sanctuaires et de commencer à voir les choses du point de vue de Dieu. Et ça, plus tard, ça l'a amené à reconnaître même sa propre folie. Hein, en verset 21, où il nous parle de ça, il nous dit qu'il était stupide, hein, sans intelligence. Notre réflexe dans ces moments de doute, dans ces moments d'envie peut-être de la vie du méchant, c'est de nous rapprocher de Dieu pour voir de nouveau comme il faut. Et là, dans la présence de Dieu, Asaph réalise que s'il s'était contenté de considérer la vie uniquement d'un point de vue humain, d'un point de vue temporel, eh bien, il serait passé à côté de ce qui est le plus important. Il était attaché à ce qui se passait à l'instant T au lieu de regarder, eh bien, au tableau en entier, au lieu de considérer sa vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans les versets 22, 23 et 24, n'est-ce pas? Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Il a commencé à regarder à ce que Dieu non seulement a accompli pour lui, mais ce que Dieu a promis pour lui. Et donc il avait négligé de considérer tous ces faits, négligé de regarder à ce que Dieu a déjà accompli et déjà promis pour ses enfants. Nous serons tous jugés. Mais pour ceux qui auront placé leur foi en Christ, eh bien, il n'y a plus de condamnation. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh! Et quel est le sort des méchants? Eh bien, c'est justement ce que Asaph va considérer. Il va regarder au sort des méchants. Il va voir que effectivement, il faut être fou pour suivre la foi des méchants. Verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. C'est pas que Dieu les pousse vers le péché. Non, ça veut dire que il les laisse là où ils ont choisi d'être et c'est une voie de perdition. C'est une voie de perdition et de destruction. Ils sont enlevés et examinés par une fin soudaine. Et comme un songe au réveil, ça disparaît. Nous devons nous rappeler ce à quoi nous échappons par la grâce de Christ. Et quand on se focalise là-dessus, eh bien alors là, ouais, en aucun cas on se dit, j'ai envie de suivre la voie des méchants. Non. On ne peut pas en toute intelligence, en toute logique. Et donc, en réfléchissant au sort des méchants, Asaph a compris que c'était là, eh bien, l'élément décisif pour lui. Les œuvres de Dieu, ses promesses, le salut, la gloire en Dieu. Et de l'autre côté, le sort final des méchants. Un sort de perdition. Un sort de souffrance. Aucune prospérité. Là, effectivement, l'être humain mérite le sort que ses œuvres ont amené. Et donc c'est la fin qui fait la différence. Ce n'est pas la course, c'est la destination. Peu importe l'apparent bonheur et prospérité dans cette vie, ce qui est important, c'est ce qui vient après. Et Asaph donc commença à comprendre qu'avec tous les méchants et la vie qu'ils menaient, eh bien, leur sort ne méritait pas de les suivre. Et oui, le témoignage d'Asaph nous amène à comprendre donc que le juste, même dans les jours les plus difficiles, eh bien, il est bien mieux loti que l'injuste, même dans ses meilleurs jours. Parce que même dans ce qui peut être les meilleurs jours pour le méchant, ça disparaît. Ça disparaît au moment de la mort. Ça disparaît au moment du jugement de Dieu. Même nos pires journées en tant que chrétiens seront toujours meilleures que celles de l'injuste. Et quand on comprend cela, et qu'on regarde eh bien, l'œuvre de Dieu. Maintenant, mon âme n'est plus en train d'envier les méchants, mais plus loin, comme le psaume de David nous le dit, au psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, il fait toute la liste. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui te rassasie de bien. Que l'Éternel fait justice, Et tout ce psaume 103 montre l'œuvre de Dieu pour nous et les bénédictions que nous avons en Dieu. Et oui, à ce moment-là, notre âme ne va pas envier la vie des méchants, mais en se rappelant de qui est Dieu, de ce qu'il a accompli pour nous, de cette grâce imméritée dont il nous a fait bénéficier en Christ, ben oui, mon âme, bénis l'Éternel. Sois heureux, parce que je suis sauvé, parce que je vais auprès du Seigneur. C'est pas pour rien non plus que Paul va répéter à plusieurs reprises aux chrétiens dans l'épître aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours. Dans quoi? Dans le Seigneur. Oui, dans notre vie ici-bas, il y a plein de choses qui vont nous apporter un certain bonheur, une certaine joie. Hein, parfois, ce sont les gens, les relations. Ça peut être, oui, certaines acquisitions, biens, propriétés. Mais c'est une joie éphémère. Par contre, en Christ, la joie que nous avons de lui appartenir, celle-là, elle est éternelle. Elle ne va pas être parfaite au cours de notre vie ici-bas, mais la promesse de Dieu, c'est que une fois au ciel, une fois dans sa présence, il n'y a plus de pleurs, plus de tristesse. C'est lui-même qui essuiera nos premières larmes, et à partir de ce moment-là, c'est la joie, la félicité, le bonheur éternel. Et ça, peu importe le bonheur que vous pouvez voir dans la vie des pécheurs aujourd'hui, ça c'est une vapeur par rapport à l'éternité. Donc je vous encourage, si aujourd'hui, ce matin, vous êtes dans une réflexion, hein, d'envier la vie des pécheurs, d'envier le style de vie du monde, de vouloir suivre cela, pensez au sort qui est réservé à ces personnes. Pensez à la grandeur de la vie que Dieu vous a accordée en Jésus-Christ. Pensez à la grandeur de ce qui nous attend au ciel. Regardez d'une perspective biblique.